Studio Tamani, voici les informations en français.
8h à Bamako, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames, messieurs, bonjour, voici le journal. Alors que le rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur le Mali sera débattu devant le Conseil de sécurité ce mardi, le gouvernement du Mali regrette un manque d'objectivité dans ce document. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de Djeneba Koulibaly, une laveuse de voitures à caille, détentrice d'un diplôme en électromécanique. Elle gagne sa vie aujourd'hui en lavant les véhicules. Sport, pourquoi les stades du Mali sont de plus en plus vides lors des matchs de football? La réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo, mise en nom de Mamadou Ouattara. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le gouvernement du Mali a fait ses observations sur le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali. D'ailleurs, le document doit être présenté ce mardi devant le Conseil de sécurité. Dans son mémorandum, le gouvernement estime que ce rapport manque d'objectivité. Ousmane Nyaliboli.
Dans ce mémorandum, le gouvernement reconnaît que les forces de défense et de sécurité maliennes ont effectué des patrouilles conjointes avec la MINUSMA. Toutefois, il regrette le nombre des 175 patrouilles conjointes annoncées dans les rapports des Nations Unies. Il demande au secrétaire général des Nations Unies de revoir ces nombres à la baisse. Les autorités maliennes précisent qu'à Tombouctou, aucune patrouille n'a été effectuée dans ce sens depuis 4 mois. Elle affirme aussi qu'à Gao, aussi bien séparée, la MINUSMA n'a conduit aucune patrouille conjointe avec les forces de défense et de sécurité du Mali. Selon les autorités maliennes, ces rapports auraient gagné en objectivité s'il informer davantage sur les efforts du gouvernement. Il est regrettable qu'en de nombreuses circonstances, les rapports mentionnent uniquement les actions des groupes armés terroristes sans pour autant informer sur les réactions des FAMA, souligne le mémorandum. Toutefois, le gouvernement du Mali se réjouit que les rapports reconnaissent les progrès politiques importants réalisés durant la période occasionnant la levée des sanctions économiques de la CEDEAO.
Ousmane Nyaliboli, pendant ce temps, les 496 victimes des violations des droits humains enregistrés dans les régions de Ségou, Mopti et Bamako demandent justice et réparation. C'est ce qui ressort du rapport d'étude des cas de violation des droits humains présenté hier à Bamako par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Selon le consultant de la CNDH, cette étude a été réalisée du 23 décembre 2021 au 28 février 2022. Docteur Paul Oula, consultant à la CNDH, au micro de Mariam Koulibaly.
Nous avons d'abord trois régions, Mopti, Ségou, Bamako. Parmi ces régions, nous avons enquêté dans 19 localités. Que nous avons les cas d'atteinte au droit à la vie, les cas d'enlèvement, les cas de séquestration, les cas de traitement inhumain et dégradant, les violences sexuelles, ainsi de suite. Ces violences sont naturellement imputées aux groupes armées terroristes et aux forces de défense et de sécurité. Les victimes sont généralement les femmes, les filles, les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité. Les enquêtés pensent que c'est très difficile d'avoir une issue favorable dans un pays où la corruption est à la hausse. Les victimes demandent la justice, demandent les réparations.
Vous pouvez donc réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plus de 340 préavis de grève ont été enregistrés au Mali de 2019 à 2021. Ce chiffre, rappelé hier à l'ouverture de la conférence sociale dans le domaine du travail, témoigne l'ébullition quasi permanente du front social, d'où l'importance de cette conférence sociale. Le gouvernement, les syndicats, le patronat et autres partenaires doivent identifier les moyens et mécanismes pour un pacte de stabilité sociale dans le domaine du travail. Le reportage de Khalifa Goïta.
Au cours de la cérémonie d'ouverture, la ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a insisté sur l'urgence d'apaiser le front social. Madame Diawara Awapol Diallo.
Le front social a aujourd'hui besoin d'être apaisé et de façon durable. Car ces conflits affectent de plus en plus certains secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, la justice, le trafic aérien, l'économie nationale et même la sécurité.
Moussadek Bali, président du patronat, espère que cette conférence marquera un nouveau nouveau départ.
Chaque jour qui n'est pas travaillé, c'est une porte pour la nation entière. Vous savez, sans dialogue, rien n'est possible. Donc espérons que c'est un nouveau départ pour le dialogue social.
L'Union nationale des travailleurs du Mali pointe du doigt la responsabilité de l'État. Issa Ben Ali, secrétaire administratif de l'UNTM.
Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes. Des problèmes que l'État lui-même a créés. Le ministre du Travail disait quelque part que l'État a trouvé un interlocuteur aujourd'hui. Parce que tant qu'il y a des syndicats qui fleurissent n'importe comment sans qu'ils soient cadrés, il y a un problème à ce niveau.
Il faut rappeler que cette conférence se poursuit à Bamako jusqu'au 22 octobre 2022.
Allons à Kay pour retrouver une fille pas comme les autres, en tout cas à travers son métier, détentrice du certificat d'aptitude professionnelle en électromécanique depuis 2015. Djenebo Koulibaly n'a toujours pas obtenu un emploi qui convient à son diplôme. En attendant, elle a choisi de travailler dans un lavage pour gagner sa vie. À Kay, des habitants apprécient le choix de cette jeune fille. Elle invite les autres fille à s'en inspirer. Nous retrouvons notre correspondant Kay Mahamadou Samba Diallo.
Chaque individu doit travailler pour vivre heureux et indépendant. Djenebo Koulibaly explique son choix.
Après avoir fini l'étude, je n'ai pas pu trouver l'emploi. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier, pour que je puisse faire mes besoins sans quelqu'un, quoi. Parce qu'en faisant de ce métier, tu peux te défendre. Même l'argent pour préparer le dossier-là.
C'est la première fois de voir une jeune fille faire un tel travail. Elle mérite l'encouragement. Adama Sidibé et Boubacar Traoré en témoignent.
C'est ma première fois de voir une femme exercer ce métier. Il n'y a pas de sous-métier. Tu peux avoir un diplôme et travailler dans un autre domaine.
C'est la première fois qu'on voit une femme laveuse de voiture.
La science aide parfois, le travail toujours. La laveuse Djenebo est un exemple à suivre. De Kay Mahamadou Samba Diallo pour Studio Tamani.
La cérémonie de remise des insignes et certificats au chef de village du cercle de Yélimané a eu lieu jeudi dernier 13 octobre dans la localité. Dans la région de Kay, le préfet du cercle a indiqué que la remise de ces symboles de l'État aux légitimités traditionnelles renforcera davantage leur rôle dans la gestion des affaires publiques à la base. La cérémonie a enregistré la présence des autorités locales et les représentants de la société civile de la localité. À Gao, à présent, au nord du pays, un tournoi de basketball a débuté dimanche dernier. La compétition est organisée par le district de basketball de la ville et placée sous le signe de la cohésion sociale. L'objectif est d'impliquer la jeunesse dans le développement socio-culturel et la promotion du vivre ensemble. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes qui ont contribué au développement du basketball dans la commune urbaine de Gao. La compétition prendra fin ce mercredi. Dans notre rubrique Zoom sur d'aujourd'hui, Adama Amadou Aïdra nous parle de Bamako, la ville coquette. Ce qualificatif était attribué autrefois pour montrer la beauté de la capitale malienne. Mais aujourd'hui, ce descriptif ne rime plus avec le visage actuel qu'offre la cité des Trois Caïmans.
Et devant cette expression, Bamako, la ville coquette, voilà comment notre interlocuteur a réagi.
Moi, je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, avec l'insalubrité, on ne peut pas dire que Bamako est une ville coquette.
Le grand marché de Bamako Bamanyari, comme les gens aiment le nommer affectueusement ainsi, témoigne de cette insalubrité. Ici, la cohabitation avec les ordures est devenue aujourd'hui le quotidien des commerçants.
Les ordures, là, ça nous dérange souvent, et nos clients aussi.
Vraiment, ça nous dérange.
Eh bien, ces tas d'ordures sont visibles dans plusieurs autres endroits dans la ville de Bamako la coquette. Mais rappelez-vous, vivre dans un environnement sain, c'est préserver aussi sa santé.
Rubrique signée Adama Amadou Aïdara. Parlons de sport, football à présent. Les matchs de football n'attirent plus du monde au Mali. Les stades sont presque vides lors des rencontres de championnat. C'est seulement les matchs de l'équipe nationale qui mobilisent le public sportif. Pourtant, les tickets d'entrée sont moins coûteux par rapport à ceux de la sous-région. Alors pourquoi ce manque d'engouement du public pour le football malien? C'était le sujet du grand dialogue de vendredi dernier. Lalé Tangara revient sur les temps forts de ce débat.
Pour Kadijatou Bakayoko, journaliste sportive, le public occupe une grande place lors des matchs de football. Selon elle, il est le pilier des joueurs.
On ne peut pas parler de football sans public. Le public est très important pour la performance même de l'équipe. Il se peut que pendant le match, l'équipe rencontre des difficultés. Si les supporters s'élèvent, chantent et dansent, cela motive les footballeurs.
Mohamed Diba Keita, du comité sportif du Djoliba AC, impute ce manque d'affiliance vers les stades aux multiplications des clubs de football au Mali.
Le football malien avait eu des difficultés pendant un moment donné. L'incompréhension entre les dirigeants eux-mêmes, c'est comme ça que les supporters ont été partagés, chacun suit son dirigeant. Les supporters ne venaient que quand leurs équipes jouaient. Un football n'est bon que lorsqu'il y a beaucoup de monde.
Les chroniqueurs sportifs prônent la réduction des clubs au Mali afin de former un public fort et passionné de football.
À 8h passées de 10 minutes, bientôt 11 minutes, se referme cette édition présentée par Sekou Gadjigo. Mise en onde de Mamadou Ouattara, vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo 37 321. Merci à toutes et à tous. Place à présent à votre magazine Mali Courant, un magazine auquel vous avez droit désormais tous les lundis après-midi et tous les mardis matins. Nous parlons aujourd'hui des établissements scolaires privés qui poussent comme des petits champignons dans les centres urbains, une floraison que certains lient à la déstructuration de l'école publique. Toutefois, plusieurs écoles exercent tout simplement dans l'illégalité. Que disent les textes en matière de création ou d'ouverture d'une école? Cette pléthore affecte-t-elle la qualité de l'enseignement? Élément de réponse dans ce magazine signé Moussa Malé Sissoko.
Des maisons inachevées sont transformées en une école du jour au lendemain. D'autres établissements sont en paille. C'est le constat fait à Bamako et à l'intérieur du pays. Des parents d'élèves apprécient différemment cette situation. Certains demandent aux autorités de mettre de l'ordre dans l'enseignement privé.
La scolarité pour les écoles privées, non, c'est trop. Parce qu'on est en temps de guerre. Il faut que les promoteurs diminuent.
C'est décevant parce que les écoles privées sont devenues des centres de commerce.
Je serai aujourd'hui ministre de l'éducation nationale. Je veux boucler toutes ces écoles.
Parce qu'ils ne répondent pas aux normes. Un, de deux, ils sont chers.
Vraiment, l'enseignement est de qualité dans les écoles privées, malgré les coûts élevés.
De nombreuses écoles privées sont aujourd'hui créées sans autorisation. Aussi, elles augmentent également les frais de réinscription d'année en année, se lamentent des parents d'élèves. Mais certains d'entre eux, tant bien que mal, respectent les règlements en la matière. C'est le cas de Konimba Fané, promoteur d'un complexe scolaire à Sabalibougou. Il affirme avoir obtenu son agrément depuis 1996.
Quand même chez moi ici, quand un élève est inscrit en première année jusqu'en fin de fondamentale, il n'y a plus d'inscription. Bon, au lycée aussi, quand un élève arrive et qui est inscrit en 10e année, jusqu'à la fin de sa scolarité, il n'y a plus de réinscription. Chaque année, l'élève paye les frais de scolarité, mais pas des frais d'inscription encore. Nous exigeons la tenue correcte pour tous les élèves. Je pense qu'il y a eu un petit laisser-aller parce que même si nous les dénonçons, pratiquement il n'y a pas de contrôle. C'est une situation qu'on peut freiner rapidement. Par exemple, autour de moi ici, il y a tellement de petites écoles qui sont en train de nous concurrencer illégalement.
L'autorisation de création d'un établissement privé d'enseignement du préscolaire fondamental et du secondaire est accordée par décision du gouverneur. C'est le ministre de l'Éducation qui délivre l'autorisation d'ouverture à travers un arrêté. Explique Mme Sanogo Assetou Sanogo, chef de section école privée au ministère de l'Éducation nationale.
Celui qui ne remplira des conditions, il s'expose à des sanctions. Et ces sanctions vont de l'avertissement écrit. Le deuxième point, ça c'est le blâme avec ampliation à tous les établissements. Et le troisième point, ça c'est la suspension de l'autorisation d'ouverture. Donc on va fermer l'école pendant 2 ans. Et ensuite, le retrait de l'acte d'autorisation de création d'ouverture.
Pour Morike Dambélé, pédagogue, la privatisation de l'enseignement ou de l'éducation n'est pas une mauvaise chose en soi. Car, dit-il, le poids des écoles privées est considérable. considérable dans le système éducatif malien. Le pédagogue reconnaît tout de même que la qualité de l'enseignement mérite d'être améliorée. Morike Dambélé.
Les écoles privées qui prolifèrent viennent prendre la place de l'école publique et assurent le minimum pour ces enfants. Les écoles privées aujourd'hui sont à peu près 70% dans les grands centres urbains maliens. Il faut peut-être soutenir ces écoles, les contrôler, les évaluer, au lieu de développer un argumentaire qui va dans le sens de leur fermeture. Maintenant, la qualité n'est pas assurée, mais cette qualité non assurée vaut mieux que l'absence totale d'école. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut renforcer le public en mettant les écoles publiques à la disposition de tous les enfants maliens.
Le ministère de l'Éducation nationale a enregistré 3042 écoles privées de Kaï à Kidal au titre de l'année scolaire 2021-2022. Selon le département, ces établissements possèdent un agrément et remplissent le cahier des charges de l'enseignement privé.